de l'Épi, bonjour chers internautes. Dans le psaume 19, il est écrit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Quand on lève les yeux vers la création, on ne peut qu'être émerveillé devant la grandeur de notre Dieu. Et ce matin, nous voulons chanter ensemble ce chant. Dieu Tout-Puissant, proclamer sa majesté, sa puissance et son amour infini.
Ta présence et sois le bienvenu, Seigneur Jésus.
Est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est ce que nous allons proclamer ce matin. Le nom de Jésus sur nos familles, le nom de Jésus dans nos ténèbres, le nom de Jésus dans tout ce qui se passe dans nos vies, sur toutes nos situations. Le nom de Jésus, déclare-le ce matin.
Tu brises les chaînes.
rédemption qui nous donne un accès au trône. Dans l'ancienne alliance, il fallait que le souverain sacrificateur, pour entrer dans le Saint des Saints, c'était un lieu dans le temple, il fallait faire des sacrifices. Mais ce sacrifice que faisait ce souverain sacrificateur, aujourd'hui est différent. Il y a eu un seul sacrifice. C'était le sacrifice parfait de Jésus. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Parce que dans la parole, il est dit aussi que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais nous avons ce pardon. Nous avons bénéficié de cette grâce. Et aujourd'hui, nous sommes ce temple. Nous sommes dans ce temple. C'est-à-dire que nous avons accès au Père. Ensemble, nous allons prendre un temps d'adoration maintenant. Se tenir dans la sainte présence de Dieu. Il est là, au milieu de nous. Au milieu de nos louanges, il siège. La louange lui sied. Et ce matin, entrons dans sa présence, focalisés sur Jésus et son sacrifice puissant, excellent, intemporel, éternel. J'entre dans le Saint des Saints, j'entre par le sang de l'agneau, j'entre pour t'adorer toi seul, j'entre pour honorer Jésus, j'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau, et c'est pour adorer Jésus seul. J'entre pour t'adorer toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre dans le Saint des Saints. Sang de l'agneau, j'entre pour t'adorer toi seul, j'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je Saint. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Nous sommes dans le Saint des Saints. J'entre pour t'adorer toi seul. J'entre pour t'honorer Jésus. Et nous t'adorons ensemble en église.
je t'adore. Ton nom est saint, car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Oui, ton nom est saint, Seigneur.
Élever chacun à nos places une prière communautaire que l'on élève à Jésus. Jésus, tu es grand, tu es saint, tu es fidèle et tu es bon. Merci pour ton sang qui a coulé. Merci pour le pardon de nos péchés. Église, élève le nom de ton Seigneur. Élève Jésus, il est digne. Tu mérites la louange. Tu mérites l'adoration. Élevons le nom de Jésus. Jésus, nous t'élevons en ce lieu. Adorons le nom de Jésus. Il est digne de recevoir la louange et la gloire. Jésus, tu es l'agneau immolé, l'agneau de Dieu qui pardonne les péchés. Pas venu pour condamner, mais tu es venu pour sauver l'humain que tu chéris tant, l'humain que tu as créé. Et nous sommes au bénéfice ce matin de ta gloire, de ta grâce et de ton sang, de ta mort et de ta résurrection. Alors nous ne resterons pas muets ce matin devant la suprématie, devant la seigneurie de Jésus, le roi des rois. Nous t'élevons, Jésus, tu es dit. Appliquons ce sang sur nos vies. Église, continue à adorer, continue à élever le nom de Jésus. Le nom de Jésus, il est beau, le nom de Jésus. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Une dernière fois, Seigneur. Seigneur, je
très saint, Seigneur.
Jésus. Nous ne pouvons être que reconnaissants, Jésus, devant toi, devant ce que tu as fait. Merci parce que je crois qu'aujourd'hui, il y aura encore des témoignages. Quelqu'un a été touché ce matin par ta grâce encore. Et ça, c'est toi seul qui le fais. Merci pour les changements qualitatifs que tu opères dans nos vies. Merci pour l'amour dont tu fais preuve jour après jour, quelles que soient les difficultés de nos vies. Alléluia. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix. Combien? Combien Dieu est grand, chantons-le. Combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. D'âge en âge, il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Chantons-le.
Oui, Père, combien tu es grand, combien tu es puissant, et notre intelligence a du mal à le mesurer, mais pourtant tu l'es. Tu es puissant, tu nous as aimés le premier, et tu nous as tellement aimés que tu as donné ton Fils unique à la croix pour effacer nos péchés, pour effacer nos erreurs. Combien tu es grand, Seigneur. Les mots manquent ce matin encore, mais entends nos louanges, notre adoration de nos cœurs, pour te dire combien nous sommes reconnaissants. reconnaissant qu'un Dieu si grand nous aime, nous qui sommes si petits, Père. À toi soit toute la gloire, mon Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut terminer par une acclamation vraiment de nos cœurs ? Merci à l'équipe de louanges. Les vacances arrivent à leur terme, les grandes vacances d'été, les 2 mois. Alors je sais que ça concerne plus les écoliers, les lycéens et tout ça, mais ça arrive à son terme et les activités de l'église vont reprendre petit à petit. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le hall d'accueil, il y a 2 tables avec de super belles nappes. C'est pour les inscriptions des enfants et des ados. Les dimanches et dimanche après dimanche, les activités vont reprendre pour les 0-30 ans. Et donc, si vous voulez inscrire vos enfants, vos ados, vous pouvez y aller et vous laissez vos coordonnées, vous inscrivez tous vos enfants. Et je voudrais peut-être que pendant le mois de juillet et août, il y a quand même des équipes qui sont restées, équipe ménage, équipe accueil, sono, etc. Aussi certains pour les enfants, pour Métanoïa. Je voudrais qu'on les encourage ce matin et qu'on les applaudisse, qu'on les remercie avec notre applaudissement pour tout ce qu'ils ont fait. Donc, si vous voulez les inscrire, n'hésitez pas, allez-y, il y aura Nicole et d'autres qui seront en place pour accueillir et prendre vos coordonnées. Je pense que certains le savent, peut-être d'autres non. L'église de l'Épi fait partie de la famille d'églises des Assemblées de Dieu de France. Et dans cette famille d'églises des Assemblées de Dieu de France, il y a une association qui s'appelle Move 025. Qu'est-ce que c'est ? C'est toutes des actions qui sont organisées pour les leaders, pour les enfants, les adolescents, les jeunes, pour les familles de nos églises de toute la France. Et dans ces actions, de ces événements, il y a Look Up Gaming. Qu'est-ce que c'est ? C'est les jeux vidéo et la foi. Il y en a qui vont se dire, ah ouais, on en est là, associer jeux vidéo et la foi. Mais oui, ça existe. Et l'église organise du coup samedi prochain, le 30 août, de 15h à 17h. C'est ouvert à tous les jeunes, tous les ados de l'église de l'Épi, mais aussi de toutes les églises évangéliques de l'association L'Entente de Strasbourg. L'inscription est gratuite, mais il faut s'inscrire. Donc il y a le QR code. Ceux qui sont gamers entre les jeunes et les ados, allez-y. Je sens que certains adultes peut-être vont y aller aussi. Et si vous voulez, si vous avez plus de questions, il y a Mickaël qui se tiendra dans le hall d'entrée pour toutes les questions et pour répondre à toutes vos questions. Une autre activité qui va reprendre à partir du mercredi 10 septembre, c'est les cours baptême. Si vous vous posez des questions peut-être, ou si au fond de votre cœur vous dites « je veux m'engager, je veux y aller, je veux assurer ma responsabilité d'être enfant de Dieu », alors vous pouvez aussi aller au stand de vie d'église, vous inscrire pour les cours baptême qui commenceront le mercredi 10 septembre. On a déjà quelques inscrits, merci Seigneur, c'est tellement bon. Est-ce que ça va ? Est-ce que vos oreilles sont bien ouvertes ? Est-ce que vos cœurs sont réceptifs ? Parce que Dieu parle au travers de la louange, mais Dieu va nous parler au travers d'un homme qui s'appelle Raymond Pierre aujourd'hui. Alors on peut l'accueillir avec notre acclamation. Que Dieu te bénisse.
Voilà, bonjour à tous. Ce matin, le titre de ce message, c'est « Un Dieu façonné ou façonné par Dieu ?» Un Dieu façonné ou façonné par Dieu. J'aimerais vous poser quelques questions ce matin. Quelle est l'image que vous avez de Dieu ? Comment vous le pensez ? Comment vous l'imaginez ? Avec quelles caractéristiques ? Comment agit-il et comment réagit-il ? Alors, je vais vous présenter quelques images ce matin de comment on peut se projeter Dieu, comment on peut se l'imaginer. Alors, la première, si elle arrive, voilà, le génie de la lampe d'Aladin, sorti en 92, je crois, pour les plus anciens. Premier cinéma que j'ai fait de ma vie, c'était en 92, et c'était à Reims, et c'était pour voir ce dessin animé. Est-ce que je vois Dieu comme un génie de la lampe qui est là pour répondre à tous mes désirs, à tous mes souhaits. Un Dieu qui est là à mon service, parce que le problème, vous savez, l'histoire du génie, c'est qu'il est prisonnier de la lampe. Et des fois, on peut avoir un espèce de Dieu comme ça qui est là pour répondre à nos désirs, à tout ce qu'on veut, pour nous faciliter la vie si on applique la bonne formule. Alors ça, c'est pour les premiers. Il y a peut-être des gens plus spirituels dans la salle. Alors on va afficher la deuxième photo. Le Dieu force. Le Dieu force, une puissance à apprendre à maîtriser pour pouvoir accomplir l'impossible. Vous savez, comme lorsque Yoda, dans l'Empire contre-attaque, se concentre et arrive à faire sortir le X-Wing de l'eau, vous savez, cet avion avec de Luke Skywalker, il le fait sortir. Et parfois, on imagine la foi comme ça, c'est une force que je vais apprendre à maîtriser, puis plus je vais avancer avec Dieu, plus je vais pouvoir contrôler des choses et accomplir ma destinée. Ensuite, il y a ceux qui sont plus romantiques au milieu de nous. Alors, il y a le dieu Cupidon. Vous savez, le Dieu qui va enfin envoyer celle ou celui que j'attends et enfin je vais pouvoir vivre le grand amour. Dieu m'a créé pour que je puisse vivre ça, le grand amour. Ensuite, pour ceux qui aiment les Marvel, on a le prochain, le Dieu Thor. Vous savez, le Dieu guerrier, celui qui mène les batailles, celui qui permet que des nations s'écrasent les unes contre les autres et se battent. Un Dieu qui est là pour terrasser le chaos. Après, il y en a un autre, c'est le Dieu Père Noël. Vous savez, le Dieu Papa Gâteau, celui qui répond et qui fait des cadeaux à tout le monde, qui offre le ciel à tout le monde. Il est gentil, il est beau, il est rouge. Et enfin, il y a d'autres chrétiens qui voient plutôt Dieu comme un père fouettard. Vous savez, le Dieu qui va sniper et pas louper aucune de tes erreurs. Et moi, je connais des chrétiens, ça fait 30 ans qu'ils marchent avec Jésus, ils passent leur temps dans la crainte et dans la peur de dire « Est-ce que j'ai fait quelque chose et Dieu va me punir ?» Et ils vivent constamment, où leurs moindres faits et gestes sont examinés pour dire « Est-ce que Dieu va me punir ? Est-ce que Dieu va me sanctionner ?» Est-ce qu'on se retrouve ce matin dans une ou plusieurs de ces images ? Vous savez, toutes ces représentations qu'on peut se faire, alors bien sûr là c'est sous forme humoristique avec des images, ça vient lorsque nous nous construisons Dieu en fonction de nos aspirations, en fonction de nos désirs, en fonction de nos envies, de nos besoins, mais aussi en fonction de nos peurs et de nos craintes. On remarque que dans toutes ces représentations, finalement, le personnage principal, c'est pas Dieu, c'est l'homme. Et Dieu, il est juste, c'est juste une image de ce qui se passe ici à l'intérieur des personnes. C'est juste une image de ce qui se passe dans nos cœurs, le siège de nos pensées, de nos actions et de nos motivations. Une représentation. On va regarder ce matin une histoire dans la Bible où le peuple de Dieu a fait la même chose que nous. S'est projeté à cause de ce qu'il était en train de vivre. Il s'est façonné un Dieu qui était censé répondre à ses ressentis du moment. Pour pouvoir l'accompagner. Et on va voir les problèmes que ça a engendré, mais comment ils ont été miraculeusement sauvés. Comment ils ont été miraculeusement épargnés. On commence la lecture dans Exode 32 avec le récit du veau d'or. Le texte dit « Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors, il se rassembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. » Alors un petit peu de contexte pour vous situer, on est dans le livre de l'Exode, livre qui relate comment Dieu a surnaturellement sauvé le peuple juif de la captivité en Égypte, là où ils étaient en esclavage. Dieu a vu la souffrance, Dieu a vu la douleur de son peuple et a surnaturellement fait sortir le peuple du pays d'Égypte en suscitant un libérateur Moïse pour les conduire et les diriger. Alors, le pharaon va décider de poursuivre, de s'entêter. Il va dire « Non, vous partirez pas. » Et Dieu va envoyer toute une ribambelle de plaies pour libérer son peuple de l'oppression et permettre à ce qu'il puisse sortir du pays d'Égypte. Et alors qu'il marche, qu'il se retrouve dans le désert, à un moment, le peuple se retrouve coincé entre la mer et la terre. Dieu va ouvrir la mer. Ils vont traverser à pied sec. Et lorsque l'armée du pharaon partie à la poursuite vient, vous connaissez l'histoire, la mer se referme et engloutit l'ennemi. Le clou du spectacle de cette histoire. Le peuple de Dieu a vécu le surnaturel de Dieu. Ils pouvaient même être en communion avec Dieu au travers de Moïse. Et Dieu leur a donné toutes sortes d'instructions pour pouvoir vivre une relation harmonieuse avec lui. Parce que le désir et le cœur de Dieu, c'était d'être présent au milieu de son peuple comme il veut l'être aujourd'hui. Dieu veut être présent et cheminer avec nous. Ils avaient tout pour être heureux. Dieu pourvoyait à leurs besoins et les conduisait. Chaque matin, ils avaient juste à aller prélever la manne pour avoir de quoi se nourrir. et continuer d'avancer. Ils avaient tout pour être heureux. Dieu pourvoyait à leurs besoins et il les conduisait. Ils étaient sortis d'Égypte. Et nous allons voir que l'Égypte n'était pas sortie d'eux. Alors que Moïse s'absente pour recevoir les plans du tabernacle, c'est-à-dire cette tente où Dieu voulait faire sa demeure, qui chemine avec son peuple dans ses pérégrinations, alors que Moïse est en train de recevoir tous ces plans de la part de Dieu, le peuple commence à s'impatienter et s'inquiéter. S'inquiéter parce que ils ne voient plus leur libérateur, le Moïse qui était avec eux, qui cheminait. Et c'est bizarre qu'ils s'inquiètent parce que le matin même, je suis sûr qu'ils sont encore allés prélever la manne, qui leur montrait que Dieu était bien dans le projet, que Dieu était avec eux. Mais là, ils commencent à s'inquiéter parce que leurs points de repère ne sont plus là. Et mon premier point que je veux soulever avec vous ce matin, c'est dans le silence, fais-lui confiance. Dans le silence, fais-lui confiance. Moïse leur avait ordonné, restez là, attendez-moi. Mais l'attente, elle devient longue, l'inquiétude, elle est de plus en plus forte. Celui qui était le moyen de contact avec Dieu n'est plus là. Et il y a un élan de panique qui prend place alors que ça fait 40 jours que Moïse est parti. Ils auraient pu se dire, attendons patiemment comme il nous l'a dit. Et puis les leaders aussi, il y avait Aaron, il y avait du monde. Il y avait des leaders, des proches. Mais tout le monde se tait. Ils disent pas non, on attend. Imaginez ce qui est en train de se passer dans leur tête. Nous sommes perdus. Dieu ne nous parle plus. Nous sommes dans un désert. On n'a plus de cap, on n'a plus de vision, on n'a plus de direction. Nous ne sommes plus en sécurité et on va finir par mourir ici. Voici les pensées qui commençaient à prendre le cœur du peuple. Et est-ce que ça fait pas écho à nos réactions parfois ? Plusieurs d'entre nous ici avons fait la paix avec Jésus un jour. On a expérimenté Dieu, on lui a donné sa vie. Et puis, je ne sais pas vous, mais au début, la vie chrétienne, c'est quand même facile. On prie des choses et instinctivement, on a des réponses. Et on dit « Waouh, le ciel est avec moi !» Et puis des fois, le temps s'installe, puis on a l'impression que Dieu devient plus silencieux. Je parle à quelqu'un ce matin ? Dieu devient plus silencieux. Certaines de nos situations, de nos défis sont comme en attente. En attente. On n'a pas de réponse. On a l'impression que nos vies commencent à végéter et ça devient vraiment inconfortable. On commence à se sentir mal. Et puis là, il y a des questions qui vont surgir dans nos têtes. Est-ce que c'était vraiment Dieu qui m'avait appelé ? Est-ce que l'expérience que j'ai vécue, elle est réelle ? Est-ce que ce n'était pas juste le fruit de mon imagination ou parce que j'ai fait des efforts, j'ai mis des choses en place et puis ça s'est réalisé, puis moi j'ai pris ça pour Dieu ? Est-ce que tout ça, ce n'était pas le fruit de ma réflexion ? Si Dieu avait vraiment été là, pourquoi je traverse cet échec ? Si Dieu est vraiment là, pourquoi je traverse cette épreuve ? Si Dieu est vraiment là, pourquoi je traverse cette maladie ? Si Dieu est vraiment là, était vraiment là, pourquoi je vis cette séparation ? On voit que dans le cœur du peuple, le doute va entraîner le mépris, même pour ce que Dieu fait. Regardez le discours du peuple. « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, c'est plus Moïse notre sauveur là, c'est celui-là là. Vous savez, quand t'es avec qui cet après-midi ? Ouais, je suis avec lui là. Ce Moïse. » Ça montre le dédain, le mépris dans le discours du peuple. Se peut-il ce matin que nous commencions à mépriser ce que Dieu a fait pour nous dans le passé ? Se peut-il que nous commencions à mépriser dans nos cœurs ce que Dieu a fait dans nos vies, sa conduite jusqu'à aujourd'hui dans sa direction ? Se peut-il que je commence à regretter un espèce de passé idéalisé ? Vous savez, un petit peu comme quand on se souvient des Noëls de quand on était enfant. Dans ma tête, c'est génial le Noël quand j'étais enfant. Il y a un espèce de petit brouillard autour, je vois quelques jouets, il y avait ma nièce qui jouait avec des Barbies, un gros bateau, moi j'étais là avec mes G.I. Joe, et puis il y avait le sapin, et puis tout le monde était heureux. Mais ça, les amis, c'est de l'imaginaire. Ça prend des bribes de choses qui se sont passées, mais ça oublie les soirées où ça finissait en engueulade dans la famille, où les gens se tapaient dessus, pas littéralement, mais vous comprenez ce que je veux dire, où l'ambiance, elle était plombée. On a parfois tendance à regretter le passé. Un passé idéalisé. On peut regretter l'Égypte. On était tellement bien en Égypte finalement. Ils oublient les coups de fouet. Ils oublient les difficultés. On idéalise. Pourtant, le peuple, il n'était pas perdu. Il disait ne pas savoir où était Moïse. Pourtant, il savait bien où il était. Il était dans la présence de Dieu pour chercher les informations, pour construire la maison. Le théologien Tony Merida écrira qu'il ne faisait simplement pas confiance à son rôle dans les desseins de Dieu, qui incluait ses instructions, sa direction et son temps. Mes amis, j'ai envie de vous dire une chose ce matin, le timing de Dieu n'est pas le nôtre. Le timing de Dieu n'est pas le nôtre parce que lui, il a une information que nous, on n'a pas. Il a la big picture, le grand dessin de ce monde. Il connaît toutes les choses, tous les enjeux, tous les enchevêtrements de nos situations de vie personnelle et plus globales au niveau planétaire qui doivent se mettre en marche pour que son plan parfait se mette en place, pour accomplir ses plans parfaits. Mes amis, Dieu fait tout parfait en son temps. Dans le temps, il y avait un chant qui disait ça, hein, en son temps. Ce que Dieu fait est parfait en son temps, si tu crois dans sa parole. Tout ce que Dieu fait est parfait en son temps. Et nous sommes invités à lui faire confiance. Vous savez, dans nos vies, Dieu parfois peut dire oui, parfois dire non, parfois attend. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, si Dieu te dit non ou attend, c'est qu'il a un oui plus grand. Un oui plus grand que ce que toi tu peux imaginer ou penser. Parce que lui connaît ce qui est réellement bon et vrai pour ta vie. Ce dont tu as réellement besoin. Nous, on voit que la distance, peut-être pour ceux qui ont des bons yeux de 30 mètres, là, je vois Daniel au loin, là encore, je vois que c'est lui. Mais Dieu voit chacun de nous, chacune de nos vies. Et il voit non seulement notre passé, notre présent, mais aussi notre futur. Il n'y a rien qui est caché devant lui. Si Dieu te dit non, c'est qu'il a un oui plus grand. Et on est invité à lui faire confiance. Vous savez, les temps d'attente sont des temps où Dieu va nous façonner, où Dieu va nous travailler notre patience, nous faire grandir dans notre confiance en lui. C'est ce que Jacques dira dans Jacques 1, 3, 4. L'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. C'est ça le cœur de Dieu. C'est de travailler à ce qu'on ressemble de plus en plus à Jésus. Et ça prend du temps, ça prend du travail, ça prend de la confiance, ça prend de la patience. Le problème, c'est que lorsqu'on laisse nos peurs s'installer, nos doutes, on va chercher à se rassurer en reprenant le contrôle, en reprenant les rênes, les commandes de nos vies. Et c'est ce que le peuple va faire dans ce passage. Il y a les vieux fonctionnements qui se remettent en marche. Vous savez, ces vieux comportements qu'on avait, on sait que c'était mauvais, on sait que c'était nocif, mais on le fait parce que ça nous rassure. Vous savez, cette petite prison dorée. Il y a des gens, ils préfèrent être enfermés dans une prison de quatre murs que d'avoir la liberté devant eux et puis savoir où aller parce que c'est trop grand. Besoin de ces points de repère. Et parfois, on va reprendre des façons toxiques de répondre à nos besoins parce qu'on a peur, parce qu'on pense qu'on n'aura pas, en reprenant le contrôle, même si on sait que c'est en train de nous pourrir la vie. Mais on le fait parce que ça nous rassure. C'est comme des points de repère. Et mon deuxième point ce matin, c'est souviens-toi de sa fidélité passée et ça va expliquer ce point de repère à laquelle ils se sont accrochés. Aaron leur dit, retirez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Chacun retira les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondu. Il dit alors, « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Voici pourquoi la fabrication d'un veau a été réalisée dans cette histoire. N'oubliez pas que le peuple a vécu plus de 400 ans en captivité en Égypte, avec la mentalité égyptienne. Et le dieu taureau, le bœuf, était une divinité en Égypte, comme elle allait l'être en terre de Canaan, là où ils allaient arriver, où ils cheminaient. Regardez ce que le théologien Tim Chester, dans le commentaire Exode pour toi, déclare, un taureau était un symbole commun de force et de fertilité dans les nations environnantes. Israël s'inspire de l'imagerie des cultures environnantes pour réimaginer Dieu. Vous savez, le symbole du taureau, mes amis, il est toujours parlant pour nous aujourd'hui, pour symboliser le succès et la réussite. Alors vous allez me dire, RP, moi je ne vais pas aller construire une vache et commencer à l'adorer. C'est vrai, on ne fait pas ça. Par contre, adorer un bon morceau, une bonne pièce de bœuf dans un burger, là, qu'est-ce que c'est bon là. Qu'est-ce que c'est bon dans une pièce de bœuf. Et vraiment, je bénis Dieu pour nos frères américains qui ont créé des chaînes de fast-food. Vous savez, c'est très mauvais pour la santé, mais qu'est-ce que c'est bon, quoi. Alors, je demande pardon à tous les véganes dans la salle ce matin, mais j'aime la viande. Au-delà de ça, je vous assure que le symbole du bœuf est toujours d'actualité aujourd'hui. Parce que l'esprit qui anime le bœuf, la poursuite de fertilité, de croissance, de force et de puissance est toujours là. Vous connaissez l'expression « on prend le taureau par les » ? On prend le taureau par les cornes, ça veut dire « je m'attaque à ça pour affronter et avoir le succès ». Pour les aficionados des marchés financiers, ceux qui aiment un peu la bourse et les crypto-monnaies, on parle de « bull run », la course du taureau lorsque les cours sont en hausse. Si ceux qui suivent un petit peu sur YouTube tout ce qui touche à ça, ils attendent toujours, on attend le bull run. Le bull run, c'est bullshit, c'est bullshit, c'est bullshit. C'est des expressions qui sont employées pour dire « ça y est, ça va monter, ça y est, je vais être riche, ça y est, je vais performer ». Pourquoi ? Parce que le taureau charge toujours de bas en haut. On n'adore plus un taureau littéral, mais on recherche toujours la performance, la puissance, la fertilité, la croissance. Certainement que le peuple est en train de se dire « Nous avons besoin de force, nous avons besoin de succès dans nos projets » et Dieu est devenu silencieux. Dieu ne nous parle plus. Notons qu'ils vont également détourner même la bénédiction de Dieu, qui aurait dû être la source de leur confiance, promesse d'une fidélité passée. N'oubliez pas que quand ils sont sortis d'Égypte, Dieu leur a donné l'or des Égyptiens. Ils sont partis avec de l'or, ils ont pu les bijoux, etc. Ils sont partis avec tout ça. Et ça, ça leur montrait la grâce de Dieu, la faveur de Dieu qui était avec eux. Tony Mérida dira encore, l'or venait de la victoire de Dieu. Il représentait sa grâce et sa fidélité. Israël minimisa sa grâce. Ce que Dieu leur avait donné, ils le donnèrent à une idole au lieu d'utiliser les dons de Dieu pour sa grâce. Ils auraient pu, ils auraient dû s'appuyer sur ce symbole de grâce passée pour affronter leur réalité présente. Ils auraient dû faire ça. Mais ils ont choisi de reprendre leur contrôle pour calmer leurs peurs, pour calmer leurs anxiétés. Ils ont pris les ressources qu'ils avaient, ils ont investi du temps. Vous savez, un bœuf, là, ça se fait pas en 5 minutes, là. Ils ont pris du temps, ils ont investi de leur énergie, de leurs ressources pour créer cette idole, plutôt que pour louer et adorer Dieu dans l'attente. Ma question est la suivante ce matin. Que faisons-nous de nos temps d'attente ? À quoi consacrons-nous nos temps d'attente quand Dieu tarde à répondre ? Est-ce que je nourris mes anxiétés, mes frustrations, mes peurs, mes rancunes, parce que les autres n'ont pas fait ce que je voulais, et puis que ce n'est pas normal que ça soit comme ça ? Est-ce que je nourris ces anxiétés ou est-ce que je cherche à investir ce temps pour ce qui compte réellement et ce qui produit la vie ? Avec qu'est-ce que je fais de ce temps-là ? Lorsqu'on ne fait plus confiance au Dieu qui s'est révélé à nous, on se façonne un Dieu avec nos dons, nos forces, nos capacités, nos talents. Vous savez, il y a plein de gens dans ce monde qui ont une capacité de leadership incroyable. Ils ont une capacité d'influencer des foules et les amener à les suivre. La question, ce n'est pas... Est-ce que c'est bien ou c'est mal d'avoir de l'influence sur les gens ? C'est qu'est-ce que je fais de cette influence-là ? Voilà pourquoi tu as des gens qui suivent toutes sortes de gens sur les réseaux sociaux et qui sont complètement aveuglés, qui se font remonter, qui croient que la Terre, elle est plate, qui croient que les avions japonais ont traversé le monde pour aller se battre contre les avions américains, alors qu'en fait, c'est juste à côté, mais parce qu'ils croient que la Terre est plate. Il y a des gens qui ont une capacité de faire croire des choses aux gens, mais ils utilisent mal les ressources que Dieu leur a données. Et la question ce matin, c'est qu'est-ce que je fais des ressources que Dieu m'a données ? Qu'est-ce que je fais de ces dons et ces talents dans ces temps d'attente ? Est-ce que j'utilise cette énergie pour catalyser mes peurs ? Ou est-ce que j'utilise cette énergie pour faire confiance à Dieu et agir là où il m'a placé, dans la saison où il m'a placé, avec les ressources qu'il m'a données ? Qu'est-ce que je fais de ce temps ? Quand on cherche à se façonner un Dieu avec ses dons et ses capacités pour répondre à nos aspirations, on va peut-être construire un Dieu qui calme nos peurs. Un Dieu comme on s'est imaginé, mais c'est un Dieu qui va nous faire tomber dans le compromis. Le troisième point ce matin, c'est appuie-toi sur le Dieu révélé. Lorsque Aaron vit cela, il construisit un autel devant lui et s'écria « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel ». Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Aaron va chercher un compromis. Il va créer une espèce de culte alternatif entre les deux. Et il va l'appeler l'Éternel, une idole. Voici l'idole, c'est l'Éternel, c'est notre sauveur. Et lui aussi, il est en train de faire face à ses peurs. Certainement qu'il fait face à la peur du rejet des autres si je ne fais pas ce qu'ils me demandent. Je ne vais plus être aimé si je ne fais pas ce qu'on me demande. Je vais être rejeté. Et certainement, Caron, il est dans cette position-là. Vous savez, il y a un réel danger, mes amis, à vouloir sauver les apparences. Vous savez, pour avoir peur, parce qu'on a peur d'être rejeté par la société, peut-être à cause de notre foi, on a peur d'être rejeté par nos amis, par nos collègues, et on va chercher à édulcorer notre foi pour la rendre plus acceptable. Je me rappelle quand j'étais jeune chrétien, que j'étais encore fiancé avec ma femme, quand j'étais avec mes collègues de travail, j'avais honte, alors qu'eux, ils parlaient de leurs ébats sexuels, j'avais honte de le fait de ne pas être là, en fait. J'avais honte du fait que c'est une bonne chose de se garder pour l'autre, de chercher son intérêt, de chercher son bien et de vivre cette communion dans le cadre d'une alliance qui protège la famille où on va pouvoir s'abandonner. J'avais honte de ça parce que les autres, eux, ils profitaient à fond. Et j'avais honte d'une bonne chose. J'avais honte d'une bonne chose, d'une chose vertueuse. Ils étaient tous là à raconter leur truc, puis moi, j'essayais d'esquiver la conversation parce que j'avais honte, alors que c'était une belle chose. Il n'y a rien de plus beau qu'un mariage dans le Seigneur. Un mariage où on sert l'autre et on ne se sert pas de l'autre. C'est beau et pourtant on en a honte. Surtout quand on est jeune. Parce que la pression, elle est tellement forte par les réseaux, par les potes. C'est tellement dur parfois. Aaron tente une sorte de compromission, un espèce de mélange de religion païenne et d'adoration de l'Éternel. Vous savez, un Dieu qui nous bénit et qui nous bénit là, il demande pas une idole, il demande pas d'obéissance. Si aujourd'hui j'interroge les gens, qui veut être béni de Dieu dans cette salle ? Ah, il y en a pas mal. Qui veut la santé ? Qui veut un bon travail ? Qui veut un bon conjoint, une bonne épouse ? Tout le monde veut ça. À moins d'avoir un problème. Mais on veut tout ça. Tout le monde veut bien d'un sauveur. Mais qui veut d'un Seigneur ? Qui lève la main si je demande, est-ce que tu as envie que c'est Dieu qui détermine ce qui est bon ou mauvais pour toi ? Il y aura moins de mains levées. C'est Dieu qui décide pour toi. Ce n'est pas toi qui décide, ce n'est pas toi le patron, ce n'est pas toi le centre. C'est Dieu. Vous savez, on peut créer une espèce de forme de christianisme où j'ai ma vie, j'ai ma situation professionnelle, j'ai mes succès, j'ai les gens qui m'aiment, et puis j'ai une petite case pour Jésus le dimanche matin. Comme ça, j'ai l'impression d'être vraiment comblé dans ma vie. Mais Dieu ne veut pas de ça. Jésus veut être au centre de ce qui va déterminer comment tu es en relation avec tes collègues de travail, comment tu vis ta relation de couple, comment tu élèves tes enfants, comment tu vis tes amitiés, comment tu vis tes soirées. On a besoin de Jésus. Hein ? Il veut être au centre de tout ça. Parce que sinon, on peut s'inventer un petit peu une forme de christianisme qui nous va bien finalement. Tout le monde veut bien d'un sauveur, mais peu veulent d'un Seigneur, quelqu'un qui décide pour nous. Vous savez, on ne veut pas vraiment de lui. On ne veut pas vraiment de lui. On refuse les exigences que sa présence impose. On refuse les changements que sa présence exige. Mon professeur Gaëtan Brassard, qu'on aura la joie d'avoir au mois de janvier à l'EPI, Dieu voulant, professeur d'Ancien Testament à l'ITF au Canada, a dit toujours cette phrase qui m'a marqué, c'est « Où Jésus ?» est le Seigneur de tout, ou il n'est pas le Seigneur du tout. Ou Jésus est le Seigneur de tout ta vie, ou il n'est pas le Seigneur du tout. Et c'est ce qui s'est passé ici. Le peuple a désobéi au commandement de Dieu, que Dieu leur avait donné, relaté dans quelques chapitres plus haut. Vous connaissez Exode 20, les 10 commandements, versets 2 à 4. « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. En donnant du poids et de la valeur à leur peur, ils ont désobéi à ce que Dieu attendait d'eux. Mes amis, il n'y a pas de substitut pour pouvoir retrouver notre confiance. Il n'y a pas de Dieu visible sur lequel nous appuyer, seulement une confiance dans le Dieu invisible qui leur avait donné toutes les garanties et toute la sécurité par la manne qu'il leur donnait, par l'or qui était là, et sa main, et on saura après comment Dieu va les conduire avec la nuée dans le désert. Dieu montrait qu'il était présent avec eux. Mais eux avaient besoin de se rattacher à quelque chose. Vous savez, Hébreux 11 nous dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On est tous capables de croire à un Dieu puissant qui agit. Mais est-ce qu'on est tous capables de faire confiance à Dieu dans la direction qu'il a pour notre vie ? J'ai pas envie de spoiler, alors je sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer. Avec mon épouse, on suit la super série qui parle de la vie de Jésus en ce moment, dont la saison 5 est sortie sur les plateformes numériques. Et j'aime, à un moment, il y a un échange entre Judas et Jésus. Judas s'attendait à un Jésus Messie qui allait renverser le pouvoir. Un Dieu puissant, capable, il l'a vu ressusciter quelqu'un. Il l'a vu guérir des malades. Et Jésus va lui dire, mais t'es capable de croire en moi pour ma puissance. Et est-ce que t'es capable de croire en moi et de me faire confiance sur ce qui va se prendre place? Et bien sûr, on est quelques heures avant que Jésus soit à Gethsémané et qu'il décide volontairement d'aller donner sa vie. Et cette question, elle est là pour nous tous. On est tous capables de croire à un Dieu puissant parce qu'on a pu expérimenter. Mais est-ce que ce matin, je veux apprendre à faire confiance à Dieu, à sa direction et à sa fidélité, même si le chemin ne semble pas être celui que j'aurais voulu prendre, sur la direction qu'il veut pour ma vie? Regardez ce que Tim Chester dira. Nous ne sommes pas si différents d'eux, en parlant du peuple. Certaines personnes veulent jouir des avantages d'une église locale, mais refusent que Dieu fixe les termes de leur relation. Elles aspirent à recevoir de Dieu ses bénédictions, tout en gardant le choix d'assouvir leur passion comme elles le souhaitent. Et là, derrière passion, on parle bien de passion mauvaise. Il y a des bonnes passions, on a le droit d'avoir des loisirs, c'est pas le propos. Elles réclament le pardon de Dieu, mais refusent d'obéir à sa volonté. Certaines personnes choisissent les passages de la Bible qui leur conviennent et rejettent les autres. C'est notre nature. Nous remodelons tous Dieu à notre image ou en fonction de nos normes culturelles. Nous oublions vite que c'est nous qui sommes faits à son image. Est-ce que je suis en train de me créer ma propre version de Dieu ? Est-ce que je minimise ou que je choisis ce qui me convient dans la Bible ? Alors peut-être que tu vas me répondre, mais je suis sincère dans mon amour pour Dieu. Vous savez, ça c'est la mode aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de s'aimer. C'est la sincérité. Mes amis, on peut être sincère et sincèrement se tromper. Je peux être convaincu d'aller à Bruxelles en prenant le Paris-Marseille en TGV. Je peux être convaincu de ça, j'ai le droit de le croire. Mais je n'irai pas à Bruxelles. Parce que le train ne passe pas par là. On peut sincèrement se tromper, on peut sincèrement s'illusionner sur nos vies. Méfions-nous, méfiez-vous des phrases qui commencent par « Je ne vois pas Dieu comme étant ceci » ou « J'aime imaginer Dieu comme étant comme ça ». Souvent, il y a un danger. Parce que souvent, on ne s'appuie pas sur ce que la Bible dit, on s'appuie sur l'imagination qu'on peut avoir et Dieu sait qu'il y a des créatifs parmi nous. Je ne suis pas un créa, mais en tout cas, il y en a qui sont très créa. Et on peut se laisser conduire par ça. Mes amis, la vérité sur Dieu ne se trouve pas dans la façon dont tu te l'imagines, où tu te le façonnes, mais elle est là où il s'est révélé. Elle est là où il s'est révélé. Et ça m'amène à faire un petit point sur qu'est-ce qu'une lecture évangélique de la Bible. Pourquoi on est des évangéliques? Pourquoi on n'est pas des protestants, des catholiques, des orthodoxes ou autre chose? Pourquoi nous sommes des chrétiens évangéliques? Refuser l'inspiration de l'origine divine des Écritures va nous conduire à une diversité d'interprétations dirigées par notre façon de penser, par nos désirs, par nos aspirations, c'est-à-dire un Dieu façonné à notre image. Si la Bible est la parole de Dieu, et elle l'est, elle a le droit à un respect plus profond, et son autorité sur nos vies doit être reconnue, et nous devons lui obéir. On ne peut pas faire dire à la Bible ce qu'on veut. L'herméneutique, qui est la science de l'interprétation des Écritures, a pour objectif de faire sortir le sens original du texte. Qu'est-ce que l'auteur disait à ses premiers lecteurs, à ses premiers auditeurs? Et ce texte-là ne prend pas, ne change pas. Il n'y a pas ou peu de modifications. Et à le transposer pour nous aujourd'hui, j'ai besoin de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire pour eux dans leur contexte pour pouvoir l'appliquer à ma vie aujourd'hui. Ça, il n'y a qu'une seule révélation du texte. Laissez-moi vous dire ceci, il n'y a pas de nouvelles vérités dans la Bible à découvrir. Il n'y a pas des choses à faire sortir du texte quelque chose d'étranger à son sens original. Et on retrouve ça dans deux milieux. Dans le christianisme libéral, vous avez déjà tous entendu parler de ça, certainement. Vous savez que le courant du protestantisme, à un moment, s'est détourné de l'autorité de l'écriture. Et puis, on a commencé à dire, oui, mais ça, ce n'est pas vraiment la Bible. Ça, ce n'est pas vraiment Dieu qui parle. Et l'homme commence à se faire l'étalon de qu'est-ce qui est de Dieu dans la Bible et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc, du coup, eux, ils disent la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais elle contient la parole de Dieu. Autrement dit, en fonction de ce que j'aime ou ce que j'aime pas, c'est Dieu. Alors, on a ça chez eux. Donc, du coup, généralement, ce qui se passe, c'est toutes les paroles de Jésus, la morale humaine, etc., rechercher le bien des pauvres, etc., ils n'ont pas de souci avec ça. Par contre, dès qu'il y a du surnaturel, des miracles, etc., non, ça, c'est pas possible. Donc, c'est l'homme qui décide de dire qu'est-ce qui est possible ou pas dans l'Écriture. Et cette façon de diriger l'Écriture, elle existe aussi chez les mystiques ultra-charismatiques. Alors, c'est mon expression. Hein. On parle des charismatiques, des pentecôtistes un peu sous testostérone. Vous savez, vous en connaissez peut-être un peu, là. Certains qui... Ouh, il y a le feu ce matin. Vous savez, et souvent, ils vont avoir une lecture un peu comme ça. Ils vont se dire, oui, mais j'ai une révélation. Dieu m'a montré comment interpréter tel passage. Dieu m'a montré comment interpréter tel passage. Le point commun des deux, c'est que c'est l'homme, en fait, en fonction de ce qu'il croit ou ce qu'il ne croit pas, qui va déterminer sa lecture. Donc généralement, ceux qui ont des révélations, ils vont sortir juste un verset en enlevant tout ce qu'il y a autour pour faire tenir leurs propos, pour justifier leurs propos. J'écoutais il y a quelque temps un prédicateur francophone sur la guérison qui fait plein de vidéos sur YouTube et sur TikTok que plein de gens suivent, très connu, très suivi, qui a écrit plein d'ouvrages sur la guérison, et qui dit des fois, on est amené à changer notre doctrine pour que cela colle avec l'expérience et le vécu. Voilà ce qu'il dit. Mes amis, quel danger de faire de nous l'étalon de ce qui est une doctrine ou pas. Ce qui est une doctrine, c'est ce que la Bible a déclaré comme doctrine. Les vérités répétées, on s'appuie sur le symbole des apôtres, que 1 Corinthiens 15 commence à dessiner. Voici ce qu'on croit. On ne peut pas se permettre de réinventer l'eau chaude. Quand il y a des images dans la Bible, quand les auteurs du Nouveau Testament reprennent des passages de l'Ancien pour les interpréter à Jésus, ça s'appelle des typologies. Mais ça, on a le droit de le faire parce que c'est la Bible qui le fait. C'est des auteurs inspirés, c'était les témoins du Christ qui étaient à ses côtés, qui ont cheminé. Mais moi, je ne peux pas me dire, je me suis levé un matin et Dieu m'a révélé quelque chose. Dieu va m'amener à quelque chose à cœur, comme je l'ai ce matin pour ce message. Mais en m'appuyant sur l'Écriture, en revenant aux fondamentaux. Qu'est-ce que la Bible enseigne ? C'est un danger. Mon prof Gaëtan Brassard dira encore cette phrase suivante. C'est pas parce que tu cites la Bible que tu es biblique. Vous savez, moi je connais des gens, là, ils te citent, ils connaissent des versets par cœur. Là, puis ils te les sortent, tout bout de champ. Puis toi, tu es à côté, tu dis, mince, je connais pas autant ma Bible. Et les gars, ils te sortent des versets, Mais toujours hors contexte. C'est pas parce que tu cites la Bible que tu es biblique. Parlant de notre relation à la Bible, en lien avec nos expériences, il y a un théologien très respecté, avec Jérôme, on l'a cité souvent, il s'appelle Craig Kinner, c'est le théologien pentecôtiste des Assemblées de Dieu américaines, qui a écrit toutes sortes d'ouvrages, dont un excellent qui s'appelle L'herméneutique de l'esprit, il est en vente à l'EPI, si pour ceux que ça intéresse. Il est quand même technique à lire, ça ne se lit pas facilement, mais il explique bien la relation qu'on a, nous, en tant que chrétiens pentecôtistes, qui croyons que le Saint-Esprit est vivant, que le Saint-Esprit parle, que le Saint-Esprit agit, pour dynamiser notre lecture de l'Écriture. Et il va dire la chose suivante, l'Écriture est censée fonctionner comme un instrument de mesure et non comme un simple endroit où, lorsque nous avons une révélation, nous pouvons chercher des versets pour étayer notre expérience. Donc il dit tout l'inverse de ce que le prédicateur francophone du moment dit. Si nous nous tournons vers l'Écriture uniquement pour soutenir notre expérience et non pour la comprendre, nous justifions notre expérience pour l'Écriture au lieu de la mesurer. Vous savez, il y en a qui vont prendre le texte de l'amitié, l'amour fort de David et Jonathan dans l'Ancien Testament pour justifier toutes sortes de pratiques que nous, aujourd'hui, la Bible condamne partout. Voici ce que ça produit. C'est qu'on va essayer de chercher à justifier quelque chose. Ah, mais l'amour... Parce que le texte nous dit que l'amour de Jonathan pour David était plus fort que l'amour d'une femme. Et du coup, on va justifier tout un mouvement théologique pour dire, voici, Dieu est pour les relations de personnes de même sexe. Alors que partout la Bible dit, Dieu ne veut pas ça. L'amour que Dieu veut, c'est l'amour entre un homme et une femme engagée et mariée. Voici ce que ça fait lorsqu'on se laisse conduire par nos penchants, par nos pulsions, par nos peurs, par nos craintes, par nos décisions, plutôt que par l'Écriture elle-même. En fait, ça ne traduit pas le texte pour nous aujourd'hui, ça le trahit. Et aujourd'hui, il y a une mode à trahir le texte dans toutes sortes de milieux. Mes amis, remettre en question l'objectivité du sens du texte par un relativisme ou une subjectivité nous amène à ce qu'on appelle le syncrétisme. Alors désolé pour les définitions ce matin, mais le syncrétisme, c'est une combinaison de doctrines qui ne sont pas possibles ensemble, non compatibles. Et le texte va nous dire qu'en effet, suite à ce que Aaron a créé, ils vont créer une fête en l'honneur de l'Éternel. Et on dit, cool, ils favorisent la koinonia, ils sont tous ensemble. Oui, il y a de la relation, oui, il y a de la communion dans le peuple à ce moment-là. Mais une communion qui va enfoncer le peuple dans la dégradation. Le terme « s'amuser » et « divertir » employé ici dans l'Ancien Testament fait allusion à des orgies d'ordre sexuel. Parce que on faisait comme dans les pratiques des peuples autour. Pour avoir la fertilité, on couchait, il y avait des prostituées sacrées, etc. Et on commençait à coucher, etc. pour obtenir une bénédiction de Dieu. Vous savez, ce Dieu sans engagement. Je fais des choses, je dis la bonne formule, je fais la bonne truc, et alors Dieu me donne automatiquement. Voici comment le peuple ici cherche à calmer ses craintes, ses peurs et leur corruption intérieure. En s'anesthésiant par le mal et par la débauche. La sexualité, on l'a dit, que Dieu a créée bonne dans le cadre d'une relation engagée entre un homme et une femme qui se servent mutuellement, a été détournée pour se servir de l'autre, pour combler ses propres appétits. C'est toujours ce que produisent les faux dieux. La dégradation humaine et la perversion qui produit la souffrance et la dépravation. Et il semble que l'apôtre Paul fait référence à cette histoire d'Exode dans son épître aux Romains, chapitre 1, versets 21 à 25. « Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. En fait, il les a laissés aller à eux-mêmes, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. On pense parfois être sage et c'est cool, je suis dans l'air du temps, c'est comme ça aujourd'hui. On pense être dans l'air du temps. On parle de progrès alors qu'on fait face à de la régression. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, vous voyez, on pense que c'est pour nous aujourd'hui, mais c'était déjà à l'époque, dans le temps. On appelle le mal bien et puis le bien mal. Mais cela n'est pas sans conséquence dans notre histoire. Verset 10, l'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple réfractaire. » Maintenant, laisse-moi faire, ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les faire disparaître tandis que je ferai de toi une grande nation. Mes amis, on ne joue pas à Dieu, on ne joue pas à l'Église. Dieu ne tolère pas le péché, il n'est pas le Père Noël qu'on a vu tout au départ, qui distribue les cadeaux, il n'est pas le Dieu Polnareff, on ira tous au paradis. Les païens, les gentils, les je ne sais plus quoi dans les paroles de la chanson. Ce n'est pas un Dieu qui nous bénit, peu importe nos choix de vie. Le péché est grave et la colère de Dieu est réelle. Mais il y a une bonne nouvelle. C'est que le vrai Dieu veut te sauver, c'est mon dernier point ce matin. Regardez la réaction de Moïse, versets 11 à 14. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit « Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et avec force ?» Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir de notre pays. C'est pour les tuer dans les montagnes et les exterminer de la surface de la terre. Renonce à ton ardente colère et reviens sur ta décision de faire du mal à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs. Tu leur as dit en jurant par toi-même, je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé et ils le posséderont pour toujours. L'Éternel renonça alors au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse ici intercède en faveur du peuple, c'est-à-dire qu'il prie pour quelqu'un d'autre, en l'occurrence ici le peuple, afin qu'il soit épargné. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que ce soit le jugement, la colère de Dieu, ou la prière de miséricorde de Moïse, elles font appel à la même chose chez Dieu, c'est sa gloire. L'un comme l'autre. La gloire de Dieu a été bafouée et Dieu veut juger pour ça. Mais pour que la gloire de Dieu ne soit pas déshonorée parmi tous les autres peuples qui vont dire « Mais regarde, il a abandonné son peuple, il l'a délaissé », Moïse met aussi en avant la gloire de Dieu. Moïse affirme que l'élimination d'Israël portera atteinte à la réputation de Dieu, à sa fidélité, à ses promesses. Alors ma question, c'est la chose suivante ce matin. Est-ce que Dieu change d'avis ? Est-ce que Dieu change réellement d'avis alors que partout dans la Bible, on nous dit que Dieu ne change pas, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Le point est le suivant, et j'aime comment le commentaire NIV explique cette tension. Il dit « La Bible nous donne un portrait varié de la nature de Dieu. Parfois, nous avons l'impression de regarder dans le ciel lui-même. D'autres fois, la Bible présente Dieu de manière humaine. Le dialogue, ici, 32, 11 à 14, appartient clairement à cette même catégorie. L'objectif semble être de mettre l'accent sur le rôle de Moïse en tant qu'intercesseur et non sur la psychologie divine. L'enjeu ici, ce n'est pas de faire la psychologie de Dieu, de est-ce qu'il change, est-ce qu'il ne change pas. Mais c'est de montrer le cœur de Dieu. En fait, Dieu pousse Moïse à l'intercession. Parce qu'en vrai, si Dieu ne voulait pas sauver le peuple, il ne l'aurait pas dit à Moïse, il l'aurait juste exterminé. Mais là, il va voir son serviteur et il dit « Regarde ce que le peuple est en train de faire. » Pourquoi il fait ça? C'est pour que Moïse se tienne entre Dieu et les morts. Que Moïse se tienne comme un intercesseur en faveur du peuple. Il invitait Moïse à intervenir. Il lui dit « Voici ce que je vais faire si tu n'interviens pas. » Et cette situation, elle nous montre qui est Dieu finalement. C'est un Dieu qui brûle de colère, mais c'est aussi un Dieu qui est lent à la colère. C'est un Dieu qui ne ferme pas les yeux sur le péché, mais aussi un Dieu qui pardonne les péchés. Toute cette intercession de Moïse, et j'ai invité l'équipe à s'approcher, elle pointe vers un plus grand intercesseur pour chacun d'entre nous. Un intercesseur plus puissant aujourd'hui. La Bible affirme que Jésus est notre intercesseur auprès du Père. Toujours dans l'épître de Paul aux Romains, verset chapitre 8, 33, 34, le texte dit « Qui accusera ceux que Dieu a choisis ?» C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Jésus a offert sa vie comme une intercession pour que quiconque croit et place sa confiance en lui. C'est à la croix, mes amis, que la colère et l'amour de Dieu se rencontrent. Afin que toutes celles et ceux, ce matin encore, qui le cherchent, s'approchent de lui, soient au bénéfice de son pardon. Je veux faire un appel ce matin, alors que la musique commence à jouer, et puis on ne va pas se déplacer, mais je veux qu'on puisse faire un appel ce matin. Je crois que Dieu appelle quelqu'un qui a déjà expérimenté cet amour, cette conduite de Dieu pour sa vie, cette grâce, mais qui traverse peut-être des temps de tracas, de soucis, et surtout de temps de silence de Dieu. Et puis ton réflexe, ça serait de « Ok, je vais retourner à l'ancienne vie là. Je vais reprendre mes anciens fonctionnements parce que finalement, eux, ils comblaient un petit peu quelque chose. Je vais retourner à mes anciennes peurs, mes aspirations passées. Je vais retourner en Égypte. Je vais retourner dans mon Égypte passée, dans mes pratiques passées pour combler mon vide. » Je vais appeler quelqu'un d'autre ce matin aussi qui s'est façonné un Dieu à son image, qui s'est construit peut-être une religion à la carte, choisissant ce que j'aime dans la Bible et ce que j'aime pas. Ça, ça m'intéresse. Ça, moi. Ah, quand Michel a prêché ça l'autre jour, bof, c'était pas... Par contre, quand Mathieu a dit ça, j'étais pas trop d'accord non plus. Par contre, ça, c'était beau, là. Anita, elle a prophétisé sur l'amour de Jésus, c'était beau. Et j'ai rien... Tous les noms sont cités, hein. C'est pas la réalité, hein, vous comprenez. Mais on commence à se dire qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on n'aime pas. À faire le tri. Choisissant ce qui nous plaît, omettant ce qu'on veut pas. Je vais appeler aussi des Aaron ce matin. Par peur du rejet des autres, tu as commencé à faire taire des choses en toi. Peut-être dans une relation où quelqu'un est en train de te mettre la pression pour que tu fasses des choses que tu n'as pas envie de faire. Et parce que tu n'as pas envie d'être rejeté, tu dis « si celui-là je le perds, c'est mort ». Alors tu es en train de te entrer dans cet compromis dans ta vie. Juste parce que tu as peur de ce que l'autre ou les autres pourraient penser. Je crois que Jésus nous appelle vraiment ce matin. Et c'est la bonne nouvelle. Jésus nous appelle ce matin encore à venir, à revenir à lui. Pas un Jésus à la carte, mais le Jésus qui est révélé dans les Écritures. Le Jésus qui prend la condamnation que nous méritions. La colère de Dieu, elle est tombée sur lui. La Bible dit qu'il a littéralement été fait péché pour nous. Il a pris notre péché pour que nous puissions être libres. Pas un Jésus créé par tes sensations. Vous savez, parce que les deux accords de piano étaient bons à ce moment-là, et puis du coup, j'étais touché. Ça, c'est des émotions, mon ami. Le Jésus révélé dans la parole, qui utilise la louange pour qu'il soit glorifié, qui vient nous rencontrer effectivement dans la louange. Mais pas juste un Dieu de sensation. Le Dieu qui veut conduire et diriger ta vie.
Pendant qu'on ferme les yeux ce matin, si c'est, tu te retrouves dans une de ces situations, peut-être fais ce pas de dire, ouais Seigneur, je veux venir ou revenir à toi. Je me rends compte qu'il y a, du compromis qui s'est installé, il y a des peurs qui m'ont envahi et j'ai besoin de toi. Alors que les regards sont fermés, c'est ton cas ce matin, je t'invite juste à, te lever à ta place comme un signe au ciel pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi de revenir. Son amour et son pardon sont accessibles encore aujourd'hui, encore ce matin. Il t'invite à le suivre en reconnaissant tes torts, tes erreurs, en recevant son pardon et son amour, mais en disant, oui Seigneur, je veux faire de ta parole le fondement de ma vie. C'est sur elle que je veux m'appuyer, c'est sur elle que je veux me fonder. Je ne veux plus marcher aux sensations, aux émotions, je dois savoir les écouter, elles ont des choses à me communiquer. Et c'est ta parole, mon fondement, qui doit me diriger. Je veux mettre fin à mes peurs ce matin. Je veux mettre fin à mes peurs qui m'environnent et qui me font faire des choix qui sont mauvais et nocifs pour moi. Seigneur, tu vois toutes les personnes qui sont levées ce matin dans ce lieu, Père. Tu es le Dieu présent qui accorde ton pardon, Seigneur. Tu es le Dieu qui, comme avec Judas, tu l'invites à, dans cette série, où tu lui invites à apprendre à faire ce pas de la foi, de la confiance sur des choses qu'on ne voit pas. Seigneur, tu es présent dans ce lieu ce matin. Je te prie de visiter, d'encourager, de fortifier. Je te prie pour cette paix surnaturelle que tu communiques, Seigneur, dans nos cœurs. Cette certitude que tu es ce Dieu qui dirige mes pas, que tu es ce Dieu qui va me conduire dans les projets les meilleurs, dans les plans que tu as tracés d'avance pour moi. Au-delà de ce que tu peux imaginer ou même penser, nous dit Paul en Éphésiens. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour toutes celles et ceux, Seigneur, qui ont trébuché en cours de route, Seigneur. Merci parce que Jésus, tu es encore celui qui te tient entre la colère du Père. Tu l'as pris à la croix pour que nous puissions être en paix et réconciliés. Nous pouvons nous approcher du trône de la grâce avec assurance, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Parce que Seigneur, tu as bâti ce pont. Ce matin, on ne veut pas encore se priver de ce que tu veux faire dans nos cœurs et dans nos vies. Merci Seigneur de souffler, d'encourager, de fortifier ce matin au milieu de nous, Père. Et que tous ceux qui sont d'accord avec ça disent un grand Amen.
Par la dépression, prions Jésus.
Le nom de Jésus, il est fort, il est puissant, il est impactant. Merci Raymond Pierre pour ce partage, merci que ça reste dans nos cœurs, que ça puisse germer, grandir et pas se dire ok c'est terminé, next, on va passer à autre chose, mais que ça puisse vraiment nous aider à avancer de jour en jour, parce que ce que Dieu veut c'est le meilleur pour nous. Ce que Dieu veut c'est que nous puissions grandir, évoluer, progresser avec lui. Et avec Dieu, c'est que du meilleur, c'est que du bon, même dans les difficultés, même dans les moments sombres, c'est que du bon. On va rester dans ce temps un peu de rétrospection, mais aussi de prière. Et il y a le Conseil des Églises évangéliques protestantes d'Ukraine. On fait un appel à la prière. Face à la situation qu'ils traversent, cette période tragique, on sait que depuis 2022, la guerre a entraîné des dizaines, des milliers de morts. Des millions de personnes qui sont déplacées, des villages, des villes qui sont détruits. Des enfants qui sont déportés, qui sont enlevés. Ils vivent la persécution. Et l'Église d'Ukraine, elle veut, malgré tout ce qui se passe, continuer ce pour quoi elle a été appelée. Continuer à répondre à sa vocation de servir, d'intercéder, de soutenir les nécessiteux, de proclamer le nom de Jésus dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors on va prendre ce temps et je vais demander tout à l'heure à Michel qui puisse me rejoindre pour prier. Nous demandons en ce jour la prière pour la fin de la guerre et l'instauration d'une paix juste entre la Russie et l'Ukraine. On n'est pas là pour prendre parti, on n'est pas là pour condamner, on n'est pas là pour juger, mais on est là pour être des artisans de paix, pour réclamer la paix. On va prier pour la protection et le rétablissement du peuple ukrainien, mais aussi du peuple russe. La guérison des blessures physiques et la guérison des blessures émotionnelles, celles qui ne se voient pas, mais qui sont parfois plus incrustées. La libération des captifs et le retour des enfants enlevés. La force, la sagesse et la persévérance pour l'Église du Christ en Ukraine ainsi qu'en Russie. Et la prière, elle est notre ligne de front spirituelle. La prière est une arme efficace. Michel, si tu veux bien monter pour prier, s'il te plaît.
Je rappelle que c'est un appel national et que toutes nos églises, cette famille des assemblées de Dieu se joint à cette prière et l'ensemble des églises évangéliques également. Donc nous nous inclinons ensemble en tant qu'église de l'Épi ce matin, en tant qu'artisans de paix, en tant qu'ambassadeurs de Christ. Nous prions, Seigneur, pour l'Ukraine. Nous prions pour nos frères et sœurs. Nous prions pour les églises qui tentent d'être des témoins de paix, des artisans de paix dans cette situation dramatique, catastrophique et difficile. Prions pour nos frères et sœurs ukrainiens parmi nous, mais aussi pour nos frères et sœurs russes, pour la Russie, pour l'Ukraine. Nous prions, Seigneur, pour que ta grâce, ta paix, ta présence se manifestent de manière concrète dans cette situation. Nous prions pour les prisonniers, nous prions pour les familles déportées, pour les enfants. Nous prions pour tous ceux qui sont sous l'effet du choc post-traumatique. Prions, Seigneur, pour ceux et celles qui souffrent dans cette situation et qui se tournent vers toi pour obtenir des réponses, des délivrances, des guérisons. Seigneur, aie pitié de l'Ukraine. Aie pitié de la Russie, aie pitié de nos frères et sœurs ukrainiens, aie pitié de nos frères et sœurs russes. Nous savons ces pays voisins, proches les uns des autres, et nous plaidons, Seigneur, pour un retour de la paix. Nous prions également pour ceux et celles qui sont en charge des négociations actuellement de ce conflit. Nous prions, Seigneur, pour que ta grâce aussi se manifeste et que tu accordes ta solution. Toi qui vois toutes choses, toi qui sais toutes choses, tu es sur ton trône. Rien ne t'échappe. Et dans le prolongement du message de ce matin, voulons pas façonner un Dieu à notre image, mais te faire confiance pour la gestion du monde et la gestion non seulement de ce conflit ukrainien et russe, mais aussi on pense à l'RDC, on pense à l'Arménie, à l'Azerbaïdjan, on pense à toutes les situations de conflit dans lesquelles sont impliquées des millions de victimes. Nous plaidons, Seigneur, pour la paix. Fais grâce, s'il te plaît, toi qui es le Dieu de paix. C'est vers le prince de la paix que nous nous tournons, en lui faisant confiance pour la gestion, pour l'avenir. Seigneur, reviens bientôt. Maranatha. Amen.
Pour ceux qui le souhaitent, ceux qui ont été travaillés par le message, ceux qui ont peut-être un défi dans la semaine, vous avez l'équipe Écoutez Prière qui se tiendra sur ma gauche et à votre droite. Et nous vous souhaitons une très bonne semaine aussi aux internautes et à très bientôt.